soi et je suis toujours admiratif quand les gens applaudissent avant. Alors je me dis, est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est l'inconscience? J'ai bien aimé l'histoire du sanglier. Je ne savais pas qu'il y en avait dans la région. Parce que chez nous, c'est très fréquent. Et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de me faire emplafonner ma voiture. Et alors j'ai... En général, quand ça m'arrive, je me dis, tiens, le Seigneur veut que je change de voiture. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple que se prendre le chou avec plein d'autres choses. C'est plus simple de dire, tiens, Seigneur, tu veux que je change de voiture. Voilà. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit par la bouche de Florence ce matin et par la bouche de Nathalie. C'est vrai qu'elle est blonde et Beko a chanté que Nathalie était blonde aussi. J'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment ce que j'avais aussi sur le cœur, c'est pas le message, hein, mais de partager avec vous. Je crois que combien d'entre nous, nous nous battons avec notre dignité? Nous avons toujours l'impression que nous sommes des gens indignes. Et c'est sûr que c'est vachement difficile de se sentir cool quand on se sent indigne. Alors que nous sommes et nous avons été rendus dignes. Et le Seigneur me parlait il y a quelques semaines par rapport à la culpabilité. J'ai partagé ça hier, je crois, dans un petit groupe. C'est-à-dire que hier, il m'a fait tellement bosser là que je ne sais plus où j'en suis. Je plaisante. Et en fait, j'ai pris conscience de ça pour moi personnellement, mais aussi pour d'autres. Et c'était en Alsace, lors d'un séminaire où j'étais avec André. Il y a plein de gens à l'appel qu'André avait fait qui se sont avancés. Puis il m'a dit, Jean, maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, c'est à toi de prier. Et ces gens venaient et ils étaient on ne peut plus sincères. Et puis, je priais avec eux et je veux dire, rien ne se passait. Hein, comme diraient les Suisses, ils avaient une tête à s'encoubler dedans. Quoi. Tellement qu'elle était longue. Hé, j'ai dit les copains, il faudrait avoir de vous bouger un peu là. Dieu a fait quelque chose dans vos vies.
Oui.
Et en fait, j'ai compris et je vous donne ça pour que vous puissiez vraiment vous allonger quoi, et être relax. C'est que souvent dans nos vies, quand on vient vers Dieu et qu'on vient demander pardon à Dieu, alors on demande pardon. Et en général, on insiste. Ce qui m'a bien entendu. On sait jamais. On insiste, on insiste. Et puis, on attend quoi ? Qu'est-ce qu'on attend après ça? On attend la punition. Et une fois qu'on aura été puni, qu'on aura eu la sanction, là, on sera libéré de notre faute. C'est une hérésie. Les moines dans les couvents se flagellaient toute la journée. Mais comme je n'ai pas la tête d'un bébé phoque, je ne vois pas pourquoi je passerai mon temps à me flageller. À me taper dessus. Oui, pardon. Excuse, je fais une parenthèse. Pardon pour les amis, j'ai tellement d'expressions. Alors, je vais essayer de me traduire au fur et à mesure que je parle. Sinon, je vous invite un jour à prendre des notes, à écrire le petit lexique Jean Bruny illustré. Voilà, ça sera plus facile. Et c'est vrai qu'on a tellement tendance à attendre la punition. Mais si, lorsqu'on vient demander pardon à Dieu, on n'a pas besoin de se flageller. Il a payé pour nous. Une fois pour toutes, je suis pardonné. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On n'a pas besoin toujours d'attendre la sanction. Action, réaction. Punition, péché, sanction. Il a payé. Si je demande pardon, avec sincérité, la repentance, c'est quoi? C'est je me repens et je ne recommence plus. C'est ce qui s'est passé avec David. Quand Nathan lui a dit, tu es cet homme-là. Il n'y a plus d'adultère dans la vie de David. Quand Jésus a amené cette femme en flagrant délit d'adultère. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de se ravaler la façade, du moins de se maquiller, de se rhabiller. Elle est arrivée comme elle était. Passons sur les détails, surtout n'imaginons rien. Mais elle était là. Jésus était là et elle a dû se dire, je vais me ramasser une avoinée de première. Je suis devant le rabbin des rabbins. Et puis il y avait les juges qui étaient là, avec leur pierre à la main. Et Jésus, devant cette scène, écrit par terre. Moi, je trouve ça canon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, j'ai une idée là-dessus, mais bon, on n'en fera pas une thèse. Hein. Moi, je pense qu'il a commencé à écrire le nom de ceux qui étaient passés sur elle. Ça désarme. Hein. Et donc, ils ont commencé à lâcher leur pierre. Et puis tout le monde est parti. Et puis elle s'est retrouvée face à face. Et Jésus lui pose cette question. Où sont ceux qui te condamnaient? Je pense qu'elle devait trembler de tous ses membres. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Elle n'a pas été sanctionnée. Alors qu'elle méritait, d'après la loi, la sanction. Si nous pouvions considérer notre vie chrétienne en Jésus de cette façon-là, que si nous confessons nos péchés, il nous pardonne et que nous n'avons pas besoin de sanctions parce qu'il, lui, il a été fait sanction pour nous. Alors effectivement, on peut faire la planche. J'ai beaucoup de problèmes. J'admire toujours ma femme quand elle l'a fait, même dans notre piscine. J'admire ma femme quand elle l'a fait, moi j'arrive pas. Alors c'est pour ça que je préfère faire de la plongée, c'est beaucoup plus simple. Terminé, comme ça je suis au fond, hein, tranquille. J'ai pas de soucis avec ça. Ça je la regarde en dessous. Voilà. Mais c'est ça qui est important. Pas de sanction. On fonctionne systématiquement avec la sanction. Et Dieu nous dit non. Ma grâce te suffit. Amen. Ça c'est fini. On va passer au message. Ça fait 5 mois maintenant que je suis. Non, 4 mois. 4 mois que je suis arrêté sur quelques versets de la parole. C'est dans Genèse, chapitre 12, les 3 premiers versets. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'y reviens en permanence. Et plus j'y reviens, plus je comprends. J'aimerais partager un petit peu ce que Dieu m'a donné de comprendre à ce niveau-là. On va lire ces quelques versets ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en pour toi-même de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous pouvez imaginer un homme qui ne connaît pas Dieu, qui est complètement à côté de ses pompes, hein, qui est, comme disait Michel tout à l'heure, qui doit adorer le dieu de la montagne, le dieu de la vallée, qui fait passer ses enfants par Moloch, qui adore la lune, etc. Et subitement, il entend ça. « Va-t'en pour toi-même, quitte ta famille, etc. » On va y revenir. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pum ! Il a dû prendre un pet canon dans la tête. J'allais dire, il a dû réfléchir beaucoup, il a dû avoir la tête qui devait se transformer en machine à laver. Vous pouvez prendre, ça veut dire... Il commençait à réfléchir beaucoup. Ça devait tourner beaucoup dans sa tête. Et ce n'est pas évident. Et en fait, ce qui m'a paru encore plus important, je crois que si on comprend ces quelques versets de Genèse 12, on va comprendre beaucoup de choses. Et en particulier le chapitre 13 et le chapitre 22 de Genèse. On va y revenir. Et en fait, partons du premier chapitre de Genèse, très rapidement, hein, et arrivons au chapitre 12. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 12 premiers chapitres, dans ces 11 premiers chapitres? Il y a la création. Dans cette création, il y a un jardin qui est mis sur la terre. Il y a un couple qui est mis dans ce jardin. Et nous connaissons la suite. Une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. On appelle ça la chute. Et l'homme chassé du jardin, et c'est important, l'homme est chassé et il part à l'est. Retenez bien ça. Et ensuite, il y a Noé, il y a l'arche, il y a le déluge, et vous connaissez la signification du déluge, il y a la tour de Babel, et on arrive à Abraham. Et tout ça, ça se tient. Peut-être on a du mal à voir la cohérence dans tout ça. On a l'impression que c'est haché. La chute, bon, ça s'est fini, ils se sont plantés. Passons à autre chose. Après, il y a Noé, avec ce truc invraisemblable. Hein. Moi, je suis toujours impressionné. Quoi. Noé et ses enfants au petit déjeuner. Dieu m'a parlé cette nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu m'a dit de lui faire un bateau. Ouais, canon. Le problème, c'est ni au bord de la mer, et c'est un bateau de 150 mètres de long et sur une montagne. Non, non. Et oui, c'est quand même une réalité. Et puis, il y a Abraham. Et en fait, j'ai ce sentiment, enfin, cette conviction, c'est plus qu'un sentiment, c'est une conviction, c'est que Dieu repasse en permanence les plats. Dieu ne serait départi jamais de ce qu'il a penser, faire. Jamais. Et tout le long de l'Ancien Testament, on voit cela. On le voit très bien aussi avec le peuple hébreu. Quand ils sont sortis de Goshen, ils sont sortis de l'Égypte avec des miracles extraordinaires. Ils en avaient déjà vécu un paquet là-bas à Goshen, avec les dernières plaies qui ne les ont pas touchées. Ensuite, ils partent affligés d'une immense fortune, puisqu'ils ont piqué tout l'or des Égyptiens. Moi, j'aime beaucoup ça. J'imagine les Hébreux aller taper à la porte des Égyptiens en disant « Purée, on a passé 400 ans chez vous, on s'est vraiment éclaté, on aimerait emporter des souvenirs. » Et ils raflent tout. Ah, ça, c'est super. La suite, avec l'or, elle est moins bonne. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ils traversent la mer Rouge, 1,5 million de personnes qui passent entre deux murs d'eau. Je ne sais pas, Auberge en ville, l'habitude et les miracles que vous avez l'habitude de voir. Moi, je considère que c'est un grand miracle. Et ils continuent. Et ils arrivent devant Jéricho. Et là, ils se dégonflent comme des baudruches. Nombre 13, 33. On s'est vus comme des sauterelles. Ils nous ont vus comme des sauterelles. On ne peut pas rentrer, terminé. Vous ne voulez pas rentrer, pas de problème. 40 ans de tourisme. On appelle ça la toupie. Et ils vont tourner 40 ans dans le désert. Mais la volonté de Dieu n'a pas changé. Lorsque cette génération passe, l'autre suit et elle rentre. Dieu continue. Dieu déroule en permanence son plan. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Abraham. Nos premiers parents ont échoué. On ne va pas relancer la pierre. Hein. Comme disait Brassens, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Non, on ne va pas leur jeter la pierre, tout simplement parce qu'on aurait fait, on n'aurait pas fait mieux. Peut-être certains d'entre vous, mais pas moi en tout cas. Ça c'est sûr. Alors on peut penser que Dieu a échoué. Ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est l'homme qui a échoué. Et Dieu va continuer. Pourquoi? Parce que Dieu veut que sur la terre, il y ait un endroit où il y ait son gouvernement. Le jardin d'Éden, au départ, c'est le gouvernement de Dieu. Et Adam et Ève sont là pour développer le gouvernement de Dieu sur toute la terre. Et là, ça a échoué. Qu'à cela ne tienne, on va recommencer. C'est un peu le vase du potier. Hein. dans Jérémie 18. On recommence. Et là, c'est un peu différent. Il appelle un homme. Et quand il appelle cet homme, il est où, Abraham ? Il est à l'est. Et il le ramène de l'est vers le point central. Moi, j'étais étonné lorsque j'étais à Jérusalem il y a quelques années. J'avais un guide super. On a beaucoup discuté. Et j'ai appris quelque chose. Alors, je vous le livre comme ça m'a été livré. Il me disait qu'en Israël, parce qu'à un moment, on est passé devant un endroit, et je dis, c'est quoi ce chantier-là ? Il m'a dit, ça, c'est le jardin d'Éden. Je dis, d'où il sort, oui. Et je dis, pourquoi tu me dis ça ? Il m'a dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Israël, il y a le Kisson, il y a l'Euphrate. Ces fleuves ne sont pas des fleuves de Mésopotamie. Il y a, bien sûr, l'Euphrate en Mésopotamie, ça on ne va pas le... Mais en Israël, il y a ces fleuves-là, dont on ne parle pas. Oui, ça m'a impressionné. Et alors je me suis dit, effectivement, ça me paraît logique. Dans le sens que Dieu continue toujours où il s'est implanté. Alors je ne suis pas, j'ai pas l'israélomania, hein. Je vous rassure. Je laisse ça à d'autres. Non pas que je suis contre Israël, je vous rassure. Hein. Si vous venez dans mon bureau personnel, pas celui de la société, dans mon bureau personnel, j'ai un grand drapeau d'Israël collé contre mon mur, mais voilà. Et je me suis dit, mais c'est logique. Et en fait, Abraham, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu veut ramener Abraham où ? Dans l'origine du jardin d'Éden. Là. Parce que Dieu ne se départit jamais de son projet. Alors il appelle cet homme. Et il n'appelle pas n'importe qui. Il appelle un homme, comme nous l'avons lu, qui s'appelle Abraham. Et vous savez ce que ça veut dire, Abraham ? Père élevé. Dieu a mis ses yeux, a posé son regard sur quelqu'un d'important. Et c'est Abraham, père élevé, il va en faire un Abraham, qui signifie père de nombreuses nations. Et mes amis, regardons-nous. Vous savez que vous êtes de la race d'Abraham, dans un premier temps. Vous êtes de la race de ce père élevé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Combien, je dirais, je suis fatigué d'entendre souvent dans nos milieux, hein, qui sont, comme j'ai déjà dit, charismatiques, charistatiques et souvent charismaniaques, où souvent, hein, j'entends des gens, lorsque je m'adresse à eux, ou je peux leur donner une parole, ou je prophétise sur eux, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais je ne suis pas digne. » Oh, vous commencez à me fatiguer là. Et quand je me fatigue, je ne m'endors pas. Hein. Je réagis. Pourquoi vous êtes toujours en train de dire que vous n'êtes pas digne ? J'ai une bonne nouvelle. C'est sûr que nous ne sommes pas dignes. Mais il nous a rendus dignes. Une bonne fois pour toutes. Point. Arrêtez toujours de vous considérer comme de la carpette. Oh. Je sais bien que chrétien et carpette, ça commence par la même lettre. Mais ça n'a pas la même signification. Vous êtes, et nous sommes, des hommes et des femmes qui sont dignes parce qu'il nous a rendus dignes. Et parce qu'il nous a rendus dignes, il va encore plus nous élever. Vous connaissez votre carte d'identité spirituelle ? Vous avez déjà lu votre passeport spirituel ? Éphésiens, chapitre 1er. Il y a tout ce que nous sommes. Il nous a élus. Ça veut dire que je suis unique. L'élection, c'est ça. Ce n'est pas le fait de savoir si avant, après, etc., Dieu savait, Dieu ne savait pas, comme Dieu sait tout, on ne va pas se prendre le chou. Il nous a rendus, il nous a élus. Je suis élu. Et quand je suis élu, je suis unique. Et si mon fils aîné était là, il dirait, heureusement qu'il n'y en a qu'un comme toi. Il m'a fait le coup une fois. Je suis élu. Je suis saint. Je suis irrépréhensible. C'est-à-dire quelqu'un à qui on ne peut pas faire de reproche. Dans le premier qui me fait un reproche. Je suis prédestiné. Là aussi, ne vous cassons pas le bol. Avec, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, prédestiné, c'est destiné avant, point. À quelque chose de bien précis. Puisqu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Je suis adopté. Il est réellement mon père. C'est, là, c'est ce que j'appelle, et ça c'est un ami qui m'a fait découvrir ça, c'est l'autre vis-à-vis, c'est Jean-Marc, quand il a adopté son, quand ils ont adopté leur sixième enfant, qui est un garçon, Tamevan, qui vient du Vietnam. C'est une adoption plénière. C'est-à-dire que Jean-Marc et Daniel, oh j'ai oublié son prénom, c'est grave, il faudra pas que je lui dise ça demain. C'est une adoption plénière. C'est-à-dire que Tamevan est le fils de monsieur et madame Potenti, né à Ho Chi Minh Ville. C'est-à-dire que les parents anciens, enfin les géniteurs, ils ne figurent pas. Il est passé de l'autre côté. Nous sommes des adoptés. Nous sommes passés de l'autre côté. Et c'est une adoption définitive. C'est une adoption plénière. L'autre, il n'a rien contre moi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ouh! Je m'emballe. Je suis gracié. Je suis racheté. Je suis pardonné. Je suis rendu sage, intelligent, instruit. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des Einstein. Hein. C'est à moi que je suis rendu sage, intelligent, instruit de la sagesse du royaume, de la sagesse d'en haut. Et avec ça, je vais pouvoir discerner les choses, et pas seulement discerner les temps. Et puis j'ai été mis à part. Je suis un vase d'honneur. Et puis je suis héritier. Ça me plaît. Souvenez, je crois que c'est l'autre jour, hein, quand au mois d'octobre, quand je suis venu, hein, je vous ai dit qu'il y avait un homme qui allait rentrer dans la salle. Dans un moment, on va avoir quelqu'un qui va rentrer dans la salle, malade et qui est affligé d'une immense fortune. Et qui va nous distribuer son héritage. 4 millions d'euros à chacun. Yes, je peux m'arrêter de prêcher, c'est fini. Là, il commence à gamberger. Hein, il y en a qui s'en souviennent. Alors je continue, puisqu'apparemment tout le monde ne s'en souvient pas. Il va nous donner ces 4 millions à chacun. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les garder pour plus tard? Je suis persuadé que vous allez commencer à gamberger à mort et vous allez créer des besoins sensationnels. À Aubergenville, dans le coin, on va avoir des super baraques. Et nous sommes héritiers de Christ. Ça veut dire qu'il nous a donné son héritage. Et quel est l'héritage que Christ nous a donné? Le salut, la puissance de guérir, la puissance de marcher sur les démons, et de chasser les démons. Et on pourrait faire toute la liste. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que le Christ nous a donné? Les plus spirituels disent, je le garde pour l'éternité. Ça, c'est... Ça sent la spiritualité, là. Hein, surtout en plus, quand on dit ça, avec la tête un peu penchée, les yeux à... la tête à 2h10, les yeux dans le vague, et à ça du sol. Yes! c'est toute la panoplie du parfait spirituel. Mais elle est bien aimée. La puissance de marcher sur les démons dans l'éternité, ça va nous servir à quoi? Et ils feront pas la planche. Ils seront en train de se baigner dans les temps de feu de soufre. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Vous allez prier pour que les gens soient guéris? Vous risquez de perdre votre temps. Parce qu'il n'y en aura pas. L'héritage que Christ nous a laissé, c'est pour maintenant. Comme diraient mes amis siciliens, adesso. Hein, j'aime quand ils disent ça. Maintenant. Et je dois m'en servir maintenant. Je suis héritier. Vous pouvez le dire avec moi, si vous le croyez. Je suis héritier. Donc, ce que le Christ m'a laissé, je peux m'en servir. Je n'ai pas besoin d'aller l'enterrer. Pas besoin d'aller l'enterrer pour dire « Le jour où le Jésus reviendra, j'irai vite le chercher pour le prendre avec. » Non, non, c'est maintenant. Et c'est ce que les gens de l'extérieur attendent. Ils n'attendent pas qu'on leur donne des flyers. Ils attendent qu'on leur dise « Ok, maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » C'est ça que les gens attendent. Moi, l'autre jour, quand mes chauffeurs sont rentrés, c'est deux jobards. Hein, c'est deux personnes qui sont chrétiennes que je connais bien, mais ils sont fous. Ils sont encore plus fous que moi. J'ai dû souffler sur eux parce qu'ils sont encore plus fous que moi. Et je suis content de voir des générations qui me dépassent. Et ils sont venus me voir en me disant, tu sais, l'année dernière, au mois de mars, on est rentré dans une famille, on a livré des oranges, et il y avait un gamin qui avait la leucémie. Et les parents étaient complètement à la rue, en disant, mais qu'est-ce qu'on... On va vers la fin. Et Arnaud et Christophe ont dit, non madame, vous n'allez pas aller vers la fin, on va prier pour votre fils. Là, me dit, vous sortez d'où? C'est des livreurs d'oranges qui commencent à prier pour les gens. Et ils vont où? Et ils ont prié pour ce gamin. Et le 19 décembre, quand ils sont revenus dans mon bureau pour me rendre compte un peu de comment ça s'était passé, ils m'ont dit, mais tu sais, le gamin, il est guéri. L'autre jour, quand ils sont arrivés chez la dame pour livrer les oranges, elle leur a sauté au cou. J'avais même presque oublié qu'ils avaient prié pour le gamin. Elle leur a sauté au cou en disant, merci. Il dit, merci, vous portez des oranges, il n'y a pas de quoi s'enflammer pour une caisse d'orange. Quoi. C'est gentil de nous sauter au cou pour une caisse d'orange, mais quand même, n'exagérons rien. Il dit, non, c'est pour notre fils, il est guéri. Alors, je ne dis pas que la médecine n'a rien fait, hein. Mais Dieu était là. Ils ont osé. Et quand on commencera à oser, on verra. Je te dis que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et souvent, quand on pense à ce verset, on dit, ouais, la gloire de Dieu, c'est je vais voir des anges, je vais voir ci, je vais voir là, je vais voir mi, je vais voir le reste. Bienvenue dans le monde des vivants et sur le plancher des vaches. Et je peux voir la gloire de Dieu en voyant ce que Dieu fait. Et ça, c'est mon identité. C'est notre identité, c'est notre héritage. Et c'est ce que Dieu dit, en fait, à Abraham. Les nations de la terre seront bénies en toi. Et vous connaissez ce verset dans Galates ? Galates 3, 19, si mes souvenirs sont bons. Et, non, pas 19, 29. Galates 3, 29, qui dit, « Vous donc, de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse qui lui a était faite. » Bien sûr qu'en Christ, nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers d'Abraham et que Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous sommes des hommes et des femmes capables de porter la bénédiction sur la terre. Ça va? J'ai l'impression que vous êtes aussi heureux que si on vous avait mis sur un fauteuil de dentiste. C'est la joie intérieure, l'exaltation intérieure. C'est extraordinaire. Oh! Vous êtes héritier. Vous êtes porteur de la bénédiction de Dieu. Aubergenville et tous les coins où vous habitez, vous êtes porteur de cette bénédiction. Ils doivent être bénis en vous. Et vous devez les bénir. Tu disais quoi? Il n'y a plus qu'à le crier, il y a l'incarner. Ça, ce n'est pas le plus facile, j'en conviens. Et oui, quand on lit Éphésiens, je vous enseignerai un jour là-dessus. Quand on lit Éphésiens, qu'est-ce qu'on en apprend? On apprend qu'on n'est pas du gros tas, que nous sommes des perles précieuses dans la main de notre roi. Nous ne sommes pas des tas de fumier, nous ne sommes pas assis sur un tas de fumier. Nous sommes des hommes et des femmes hyper précieux pour Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'Abraham, il n'a pas du tout comprendre sur le coup. Surtout quand Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une nombreuse nation. Je ne connais pas ce Dieu, mais je pense qu'il se plante. Parce que j'ai 75 ans, ma femme a à peu près le même âge que moi, puis il y a juste un petit détail. Pas grand-chose. Elle est stérile. Mais vous imaginez, à la place de cet homme, le boom que ça a dû faire dans sa tête. Franchement. On a l'impression, enfin, moi en tout cas, je fais partie de ces gens-là, comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai été élevé entre deux pages de Bible, donc je ne me suis jamais posé la question sur la réaction. Moi j'avais l'impression que ces mecs-là, c'était des super mecs, quoi, et des supermen. Dieu parlait, ils agissaient sans réfléchir, boum boum, ça allait tout seul. Je vous ai déjà raconté ma façon de voir Noé, et même pour Abraham. Quand Dieu dit « contemple les étoiles du ciel, contemple le sable, regarde le sable de la mer et tu auras une lignée plus nombreuse que ça. » Il y a de quoi se fracasser la tête. Hein. Il ne devait rien comprendre. Et Dieu lui dit, maintenant, pour tout ça, il y a quand même une condition. Et la première condition, c'est va-t'en pour toi-même de ton pays, de ta patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de signifier à Abraham? Il est en train de lui dire, mon ami, si tu veux faire ma volonté, si tu veux rentrer dans mes plans, si tu veux rentrer dans ta destinée, alors il est sage que tu quittes ta sécurité. Il faut que tu quittes tes endroits dans lesquels tu es sécure, dans lesquels tu as tous tes repères. Parce qu'en fait, ce que je veux que tu apprennes, c'est à dépendre de moi. Tant que tu seras dans un endroit sécur, tu ne vas pas dépendre de moi parce que tu as tes habitudes et tu sais te sécuriser. Et même, tu as un plan B au cas où ça ne marcherait pas. Alors, quitte et va dans un endroit que tu ne connais pas. Parce que là, tu vas devoir dépendre de moi. Ce n'est pas facile de dépendre de Dieu. Je sais que si je vous pose la question, est-ce que vous dépendez tous de Dieu, vous allez me regarder avec un sourire angélique en me disant, bien sûr. Je vois votre sourire, c'est magnifique. Arnaud, tu es splendide quand tu ris comme ça. On devrait te prendre pour une publicité dentifrice. Je ne charme que les gens que j'aime. Et oui, on doit sortir de nos sécurités. Et ce n'est pas facile de dépendre de Dieu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire dépendre de Dieu? Si nous sommes honnêtes, et je suis persuadé que vous l'êtes, notre confiance en Dieu, elle est où? Elle est dans le chiffre qui est en bas à droite de ce qu'on appelle un relevé de compte. Allons, poussons le raisonnement. Quand vous devez aller à une convention, quand vous devez aller à un séminaire, quelque chose auquel vous aimeriez participer, qu'est-ce que vous faites? Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a dit « je demande le prix ». Et puis vous regardez ce qui vous reste. Et si vous allez arriver à la fin du mois. Ça, c'est dépendre de Dieu. Non. C'est le plan B. Mais ce n'est pas la dépendance de Dieu. Si Dieu vous dit de le faire, faites-le. Notre sœur nous disait tout à l'heure, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Si je rentre dans sa dépendance, Dieu va pourvoir. J'ai vécu cela avec mon épouse et nos enfants pendant 8 ans. Avec 5 600 francs à l'époque à rembourser tous les mois pour la villa qu'on venait d'acheter. Et Dieu m'a dit, maintenant tu vas vivre par la foi. Tu ne feras plus connaître tes besoins, tu ne seras plus salarié. Je vais te mettre au large, plus de paroisse, plus rien. Tu vas dépendre de moi. Et jamais une lettre de nouvelles. C'est facile d'être de nouvelles. On écrit et on dit, j'ai tel projet, est-ce que vous pourriez prier pour que le Seigneur pourvoie? Et en bas, on met un CCP. On fonctionne comme ça, non, mais il faut être honnête, c'est la réalité. Et Dieu m'a dit ça, tu ne le feras jamais. Si tu veux que les gens prient pour toi, tu renverras juste ton programme, comme je fais aujourd'hui. À certains. Et c'est tout. J'ai vu des billets de banque tomber du ciel. C'est une réalité. Je n'ai jamais manqué de rien. On n'a jamais été interdit bancaire. Je me suis vu acheter des choses, les poser sur le tapis roulant de la caissière, et peu d'années, on les reprendre et aller les poser. La caissière m'a regardé, il est pas bien dans sa tête. Il a dévissé quelque part. Non. J'ai appris la dépendance. Va les reposer. Et 15 jours après, je revenais, il y en avait 3 pour le prix d'un. Je l'ai vécu. Mais je sais pourquoi j'ai vécu ça, parce qu'aujourd'hui, je peux conduire. Aujourd'hui, nous avons 4 sociétés. Je peux conduire ces sociétés selon la dépendance de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre. C'est à sortir de nos sécurités. Je ne veux pas dire que maintenant vous devez arrêter votre boulot, etc. Hein. Pas dit ça. Hein. C'est vraiment sortir de nos sécurités. Nous placer devant Dieu, qu'est-ce qui fait ma sécurité? Qu'est-ce qui fait ma sécurité? Mais honnêtement, ce n'est pas la question de répondre là maintenant, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui fait ma sécurité? Je suis chrétien, certes, mais qu'est-ce qui fait ma sécurité? Et quelles sont en fait mes fausses sécurités? Et accepter de les laisser à Dieu, au risque de tout perdre. Hein ? Vous vous rappelez le chant, mais je pense que ça, c'est pas pour les jeunes générations, c'est pour les vieilles générations, n'est-ce pas, on est sympa. Et quand on chantait « Oui, prends tout, Seigneur !» Après vous, s'il en reste. Hein ? Et seulement, le problème, c'est que le Seigneur exauce nos prières. Ça, c'est très embêtant. Surtout dans ce domaine-là. Et quand le Seigneur commence à exaucer nos prières, ça commence à râler dans les chaumières. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte des fois de ce qu'on prie. On est tellement spirituel. Abraham, sort de tes sécurités. Et puis, il dit une deuxième chose. Quitte la maison de ton père. Pourquoi Dieu, on va dire, inflige ceci à Abraham? Quitte la maison de ton père. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. Ça veut dire que, en fait, qui c'est qui nous donne notre identité? C'est les parents. Quelque part, c'est nos parents. C'est la façon comme ils nous éduquent, c'est la façon comme ils nous voient, c'est aussi des fois les petits noms qui peuvent nous donner. Et j'ai compris ça il y a juste quelques semaines, quand ma sœur m'a appelé, de temps en temps on s'appelle, et elle m'a appelé par mon petit nom, quand j'étais tout gamin. Parce que dans la famille, c'est comme ça qu'on m'appelait Nano. Voilà, ça vous le saurez, c'est fini. C'est bien, ça c'est fait. On m'appelait Nano. Et elle m'appelle comme ça. Et ça m'a fait drôle. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Parce qu'elle m'a dit, tu es toujours mon petit frère. Plaît-il? Eh oh, j'ai 64 ans et un peu plus. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai quitté la maison du père et de la mère. Et ça, c'est pas mon identité. Ça, c'est pas mon identité. Vous comprenez pourquoi? Des fois aussi, on doit quitter, sortir. Ça ne veut pas dire de nier ses parents. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je ne pense pas qu'Abraham, en partant, il a claqué la porte en disant « Non, les vieux, j'en ai plus rien à cirer. » Ce n'est pas du tout ça. Hein. Parce que je sais qu'il y a un courant qui part là-dessus. Hein, où, dans la mesure où on est marié, etc., les parents, ce n'est même pas des amis, quoi. C'est rien du tout. C'est quoi ce truc? C'est vraiment quitte pour que tu aies réellement et que tu découvres en Dieu ta vraie identité. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. Afin que tu puisses réellement dépendre de moi et que je puisse réellement m'imprégner en toi. Et Abraham l'a fait. À un détail près. Qu'il a pris Lot avec lui. Et c'est là que on va comprendre Genèse 13. Si on comprend le fait de dépendre de Dieu, de sortir de ses sécurités, de prendre sa vraie identité, on va comprendre Genèse 13 et la brouille qu'il y a entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ils vont devoir se séparer. Pourquoi? Parce qu'il a emmené avec lui un brin de sécurité, son neveu, encore sa famille. Je te dis tout. Détache-toi de tout. Et tout, c'est le tout de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas 99,99. C'est 100%. Et vous remarquerez, en lisant Genèse 13, que c'est au moment, et la Bible est claire à ce sujet, après s'être séparé de Lot, Dieu lui dit, regarde. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Regarde. Regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au sud, regarde au nord. Ça, c'est mon jardin pour toi. C'est le pays que je te donne et que je donnerai à tes pères. Non, pas à tes pères, mais à tes enfants, à ta descendance. Si tu vas dans l'obéissance jusqu'au bout, alors tu vas commencer à avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Des fois, nous râlons comme des poux parce qu'on dit « Je ne comprends pas ce que Dieu veut de moi. » Oui. Mais est-ce que vous avez rempli, j'oserais dire, les conditions qu'il y a avant? Est-ce que vous avez coché la case « Acceptez-vous les conditions générales de vente ?» Il ne vous demandera pas de mettre votre carte bancaire, rassurez-vous. Mais est-ce que vous avez rempli la... Est-ce que vous avez coché la case? Sinon, vous avez un message qui s'affiche en rouge. Et sinon, vous ne pouvez pas passer à la page suivante. Ça sent le vécu. Hein. Mais c'est vrai. Et les informaticiens n'ont rien inventé. Hein. C'est la réalité. Et alors après, on va comprendre Genèse 22. Parce que Dieu lui donne un fils. Et c'est vrai que le texte de Genèse 22 est un peu difficile à comprendre. Parce que là encore, Dieu, quand Dieu l'appelle, il le rappelle de la même façon qu'il appelle dans Genèse 12. Abraham, va-t'en pour toi-même au lieu que je te montrerai. Et là, il lui dit, ça c'est un peu difficile à comprendre. Donne-moi ton fils. Ton unique. Offre-le en holocauste, s'il vous plaît. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de tuer son fils. Offre-le en holocauste et élève-le au-dessus de toi. O, Ola, en hébreu. Et j'ai la joie de lire un peu l'hébreu. Et quand il est marqué, ils montèrent tous deux ensemble, c'est ils montaient d'une façon fusionnelle. En fait, Abraham avait rattrapé une sécurité, son fils. C'était sa sécurité. Et Abraham, Isaac n'avait pas, il ne poussait pas le landau, hein. Il avait 38 ans. Ça, c'est un rabbin en Israël qui m'a dit ça. D'ailleurs, il était très étonné quand j'ai parlé de ça avec lui, parce que je ne voulais pas me tromper. Moi, j'avais cette conscience de ce texte, et il était très étonné, ce brave rabbin, quand il m'a dit, mais tu es un des rares Européens à comprendre le texte comme nous, on le comprend. Waouh. Les portes de Jérusalem, ils ont dû les ouvrir très grandes. Tellement que j'étais fier. Et remarquez, quand Abraham va mettre Isaac sur l'autel, il va jusqu'au bout, hein. Vous vous rendez compte la fusion qu'il fallait qu'il y ait entre le père et le fils pour que le fils ne se regimbe pas? Je vois faire ça à mon fils David, qui est deux fois plus costaud que moi, il m'en met une que j'avale le monde entier. Sûr. Papa, qu'est-ce que tu fais? Et il faut être fusionnel pour accepter d'aller jusque-là. Et l'ange qui lui crie, oh, tu vas faire l'ânerie de ta vie. Arrête ton char, ou arrête ton couteau. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bélier. C'est quoi ce bélier? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, ce bélier? Et René, qu'est-ce qu'il fait ce bélier là-dedans? T'as dû parler que... Non, c'est le Père. Dieu est en train de dire à Abraham, c'est pas toi qui doit te détacher. Enfin, c'est pas toi qui dois arrêter. Si tu veux qu'il y ait du succès dans la mission, il faut que tu aies un successeur. Donc en fait, c'est toi qui as besoin de te sacrifier toi-même. Accepter de perdre encore cette sécurité. Et le bélier, c'est le père, c'est pas le fils, sinon ce serait un agneau. Alors c'est ça que tu dois sacrifier. C'est toi-même qui dois accepter cette coupure, arrêter ce côté fusionnel. Si tu veux que ça marche, si tu veux que mon plan s'accomplisse, il faut que tu le laisses, que tu le fasses sortir de ta propre sécurité. Voilà ce que dit le texte. Et ça s'est fait en étape. Et c'est glorieux. Nous, on veut tellement que les choses aillent vite. Hein, on est la génération fast-food, quoi. Hein. Dépêche-toi, mon amour, je suis gars en double fil. Hein. Vous, il faut que ça aille vite. Non. Il y a des étapes dans la vie. Il faut les accepter. Et Abraham a accepté ça. Et on en parle encore. Vous comprenez? La valeur de se sortir de ses sécurités, la valeur d'oser quitter son père et sa mère. J'insiste bien, ce n'est pas les renier. Hein. C'est dire, ok, maintenant je suis grand. Et c'est sûr que je vais faire des erreurs. Moi, j'ai vu nos fils, et je pense à un des deux en particulier, où je l'ai vu partir, mais là, il va se prendre un mur canon. Mais comme il ne me demandait pas mon avis, il dit, c'est ton choix, mon poulet. Alors, avec Isabelle, on est allé acheter des matelas, on les a bien mis sur les murs, le jour où il va le prendre, boum, qu'il y ait moins de bosses possible, qu'il y ait moins de dégâts possible. Et c'est sûr qu'en tant que parent, ce n'est pas évident de dire, il va se viander. Non, pardon, il va chuter. Il est en train de faire une erreur. Eh oui, mais laisse-le. Laisse-le. N'essaie pas de le retenir. Parce que plus tu le retiens, le jour où il partira, il ne reviendra plus. Laisse-le partir. Bénis-le. Et continue à prier pour lui. Ne te révolte pas en disant, hey, tout ce qu'on a fait pour toi. On est fort pour ça. Ah ouais. Non, c'est pas ça le problème. Laisse-le. Mais entoure-le. Et t'inquiète pas, il va revenir. T'inquiète pas, il va revenir. Sans souci. Il reviendra aussi différemment. Et toi, tu l'accueilleras différemment. Il n'y aura pas de rébellion. Il n'y aura que de l'amour. Oui, papa, je me suis planté. Ben oui, c'était évident. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Que tu ne m'aurais pas écouté, d'abord tu ne me l'as pas demandé. Puis même je t'aurais dit, tu m'aurais dit, ouais, les vieux, vous y comprenez que dalle. Mais nous, ok, c'est bon, va. Ouais, j'ai vécu ça avec mes parents et mes enfants, ils ont vécu ça avec nous. Hein. Ils sont pas exceptionnels. Hein. Comment ils sont pas exceptionnels? Qui a dit ça? Eh oui, mais il faut. C'est nécessaire. Si on veut que nos enfants rentrent dans le plan de Dieu. Et des fois, le plan de Dieu pour nos enfants n'est pas forcément nous, ceux auxquels on avait pensé. Ça, c'est vachement embêtant. Hein. Ton père était notaire, tu seras notaire, mon fils. Bon. Ben non, j'en ai garleur. Et oui, on veut tellement. Et ça aussi, c'est notre sécurité. C'est notre prolongement. Mais ils peuvent nous prolonger dans plein d'autres choses. Moi, je n'ai pas fait exprès si un de nos fils est le fondé de pouvoir d'une des sociétés. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est comme on dit un matin qu'il ne savait pas que... Ça faisait des mois que David me bassinait en me disant « Papa, je ne sais pas ce que je vais faire après mon bac. » Mais tu verras bien. Prie. Vas-y. Prie. Eh oui. Ils ont beau être élevés entre deux pages de Bible, ils n'ont pas tout avalé. Hein. Et un matin, il descend, alors, à son âge, et de la part de David à cette époque-là, c'est exceptionnel. Il descend, il me dit « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Je dis « Qu'est-ce que tu as encore à me dire ?»« Je sais ce que je vais faire. » Ah ben, il dit ça, c'est bien. Dieu m'a parlé cette nuit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais faire des études de commerce pour venir travailler avec toi. Alors là, j'étais la Venise de Milo. Les bras m'en sont tombés. Non, la Venise de Milo, c'est une statue sans bras. J'ai bien écouté. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est mon bras droit et c'est lui qui va prendre la suite quand je prendrai ma retraite. Et l'autre, il est parti dans des grandes sphères. Mais là aussi, on ne l'a pas fait exprès. Hein. On ne l'a pas fait exprès. On a la joie, j'ai la joie de dire que j'ai un fils qui est narque, ça fait drôle, hein. Mais c'est la vérité. Mais bon, voilà, c'est aussi ma fierté, hein, je ne m'en cache pas. Mais on ne l'a pas fait exprès. Hein. Il est comme il est. Et je veux dire, c'est accepter de lâcher les choses. Et vous savez que c'est un acte divin, la séparation. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière, et le dernier acte, ça sera une séparation. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Donc, bien-aimé, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons simplement demander à Dieu de venir regarder nos cœurs, de venir regarder nos vies, de voir si nous ne sommes pas attachés à des sécurités que Dieu aimerait qu'on lâche. Quand je dis lâcher, hein, comprenez-moi bien, c'est pas renier ses parents, c'est pas lâcher son boulot, c'est pas partir comme un fada en disant je vais vivre par la foi. Si Dieu vous le demande, faites-le. Mais je peux vous assurer que c'est pas évident. Moi, je sais que quand je rendais mon témoignage à l'époque où je vivais par la foi, où j'enseignais, je me disais ah, j'aimerais être comme vous. Surtout pas. Si Dieu vous le demande, oui. Mais si Dieu ne vous le demande pas, ne le faites pas. N'obligez pas Dieu à faire des miracles. Parce qu'en fait, la foi, c'est quoi? C'est croire en Dieu et croire qu'il y a des chrétiens qui vont écouter Dieu quand tu vas lui dire « Donne-lui son mal ». Eh oui, c'est ça aussi la foi. Bon, d'accord, même si j'ai vu des billets de banque tomber du ciel, j'ai pas vu que ça. J'ai vu aussi des chrétiens me faire des dons. Parce qu'avant, ils avaient écouté Dieu et ils obéissaient. Mais le jour, on va dire, où j'ai retrouvé un travail, où j'ai commencé à être salarié de la société, et on ne m'a plus fait de dons. Je dois avoir mon chapeau quelque part. Non, je plaisante. Je n'ai pas de souci avec l'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Franchement pas. J'en ai, c'est bien, je n'en ai pas. Je suis vivre comme ça. Donc. Comme tu as dit, je sais que mon Dieu pourvoira. Donc j'ai aucun souci. Mais se détacher. Et ne pas faire des fixettes sur différents points de notre vie. Ou même sur nos enfants. Pas les retenir. Ne pas les retenir. Bénissez-les et laissez-les aller. Je sais que c'est pas facile à dire. Je sais que c'est pas facile à dire. Et c'est facile à dire, mais pas facile à vivre. Mais je vous assure que si vous les laissez partir en les bénissant, je vous promets au nom de Jésus. Je dirais qu'ils vont revenir. Non pas qu'ils vont revenir parce qu'ils vont faire Tanguy, hein. Ils vont s'installer chez vous. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils couperont pas la relation. Pourquoi ? Parce que ils vont reconnaître qu'ils ont besoin de cette relation. Qu'ils ont besoin du conseil du papa. Et c'est, ça, c'est une réalité. Là, je vois mon fils aîné, je lui dis que lui aussi est encore plus grand que moi et plus costaud que moi. Des fois, encore à Noël, il m'a pris dans ses bras. Là. Il me dit, mon papa Noué, celui que j'aime, et bum, un coup de boule. Mais oui, mais... Et pourtant, je veux dire, il, intellectuellement et tout, il est bouh. Mais c'est pas un problème. C'est mon fils. Hein, comme on dit dans certains pays, mon fils. Mais c'est vrai. On l'a béni avec sa mère quand il est parti. Il est parti faire ses études il y a quelques années. Enfin, il est toujours étudiant d'ailleurs. Et puis, ok, pas un problème. Et si vous les retenez, le jour où ils partent, ils ne reviennent plus. Bénissez-les. Sortez de vos sécurités. Et laissez-vous examiner par Dieu. Et j'insiste là-dessus. Passez du temps cette semaine devant Dieu. Dire, Seigneur, où sont mes fausses sécurités? Qu'est-ce que j'ai retenu que j'aurais dû lâcher? Parce que je vais être conforme à ta volonté, afin de pouvoir remplir ces conditions pour bénir les autres. Pour bénir l'espace dans lequel tu m'as placé. Amen. Je vous invite à vous lever. Te bénissons parce que nous savons que tu es notre Père. Et nous savons que tu es ce Père parfait qui désire qu'une chose, notre bonheur. Et tu nous as donné ces choses afin que nous puissions les transmettre à notre descendance. Afin que notre descendance soit les héritiers des trésors que tu nous as légués. Et Père, je prie ce matin au nom de Jésus que la parole qui a été prononcée ce matin puisse réellement pénétrer les cœurs, puisse pénétrer les consciences. Je prie pour ceux et celles qui se sont sentis concernés par les histoires du Père, l'histoire du Fils, l'histoire des sécurités. Et Père, je te demande au nom de Jésus qu'alors qu'ils se placent devant toi, qu'il n'y ait aucune culpabilité. Et je veux vraiment lier au nom de Jésus cet esprit de culpabilité. Dégagez-vous et soyez au nom de Jésus dégagés de cela. Ne pliez pas sous le joug de la culpabilité en disant « Ah, si seulement j'avais su, il ne se serait pas passé. Que dalle !» Ça s'est passé. Mais nous avons cette promesse de Dieu que Dieu est capable de retourner le mal en bien. Et la première chose, c'est la prise de conscience dans vos vies. Et je prie pour que cette prise de conscience puisse vraiment trouver, des racines, s'enraciner en vous, afin qu'il y ait une véritable repentance. Qu'il y ait un véritable repenti dans vos vies. Et je vous promets, au nom de Jésus, que derrière ce repenti, il y aura une véritable réconciliation. Une réconciliation basée sur les fondements du royaume, sur les promesses de Dieu. Et pas seulement sur ce que vous avez ressenti ou sur ce que vous avez obligé. Seigneur, merci parce que tu étends ta main. Merci parce que tu fais grâce. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et nous te bénissons les uns et les autres pour cela. Pour ce jour de grâce que tu nous donnes. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui vient, je dirais, te mettre dans les moindres recoins de notre vie. Même tout ce que nous avons pu cacher aux hommes, nous savons qu'en toi et devant toi, rien n'est caché. Aussi, je prie et nous prions ensemble pour que, en cochant cette case, nous acceptons les conditions générales de vente, que tu viennes vraiment mettre en évidence, à la lumière, tout ce qui est encore sombre, tout ce qui est encore ombre dans nos vies. Sachant que quand tu viens le faire, tu ne viens pas en condamnation, tu ne viens pas en juge, tu viens en amant, en amoureux. Tu viens avec ta douceur, tu viens avec ta tendresse. Ouais, allez, vire-moi ça de là, tu n'en as rien à cirer, tu n'en as rien à faire. Vire-le, c'est pas important. Oui, mais Seigneur, je... Vire-le, vire-le. Je suis capable d'en donner 1000 fois plus. Alors vire-le. J'ai cette parole de Jacques, de l'apôtre Jacques, qui résonne dans ma tête. N'amassez pas des trésors là où la teigne et la rouille peuvent atteindre. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et l'apôtre Jacques ne parle pas forcément d'argent, là. Il parle des richesses du royaume de Dieu. Waouh! C'est la vision de la sœur de Nathalie. Hein, il y avait les trois saisons de Nathalie, il y a les quatre saisons de Vivaldi. Mais dans les quatre saisons, dans les trois saisons, on peut être serein parce qu'il est là. Parce que j'ai mis ma confiance en lui. Et je vous invite à la part de Jésus ce matin, réellement, à accepter de mettre votre confiance en lui. Même dans les recoins que Dieu a soulevé ce matin, à montrer ce matin. Mettez-y votre confiance. Dire, Seigneur, là, ouais, c'est douloureux, purée, mais allez, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et moi, je vous dis, ça, c'est une prophétie de la part de Dieu, que si vous mettez dans ces recoins-là, ah, c'est un peu dur d'y pénétrer, si vous mettez votre confiance, alors, je vous dis que vous allez voir, dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, la gloire de Dieu. Vous allez dire, mais purée, ça marche. Et bien sûr que ça marche. Il n'y a rien d'étonnant. On a un Dieu étonnant, un Dieu surprenant. Le Père surprise. Et oui. Seigneur, merci pour cette communauté. Merci pour la richesse de cette communauté. Et je prie que tu les combles de toute bénédiction spirituelle. Toutes ces réserves que tu as dans le ciel pour eux, je prie pour que tu leur donnes. Je prie pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, afin que ces réserves soient déversées en abondance sur les uns et sur les autres. Je te prie vraiment pour les pasteurs, l'équipe de direction, que vraiment tu continues à les conduire, à les bénir, qu'ils soient encore toujours plus attentifs à ce que tu veux leur dire, comment conduire cette communauté. Où tu veux conduire cette communauté? Dans quel chemin, dans quel territoire tu veux que cette communauté ait sa place et qu'elle puisse conquérir les territoires? Je prie vraiment cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.